Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud vont débuter non pas ce vendredi, mais le vendredi suivant, avec les cérémonies d'ouverture. Mais déjà, il y a des gens qui sont rendus et qui attendent l'ouverture de ces Jeux, dont Sébastien Goulet, qui sera l'annonceur maison pour les matchs de hockey sur glace. On lui parle, alors avec 14 heures de décalage, nous sommes en direct, pour lui, il est 7h10, demain matin, jeudi, en Corée. Bonjour Sébastien.
Bonjour Paul.
La communication est excellente, ça part bien?
Oui, tout à fait.
Alors, parle-moi d'abord, c'est long se rendre en Corée, là.
Oui, écoute, ça a été un vol de Montréal, Los Angeles, Tokyo et Séoul dans mon cas. Et puis par la suite, bien le train à haute vitesse a été ouvert au mois de décembre. Cependant, les gens se sont tellement lancés sur les billets que pour nous, les gens qui travaillent aux Jeux olympiques, bien c'était la bonne vieille voiture pendant 3 heures pour se rendre dans la région. Là, moi, je suis un peu à l'est de Pyeongchang, à Gangnam, sur le bord de la côte de la mer du Japon. C'est de là où auront lieu tous les sports de glace.
Est-ce que ça t'énerve de savoir que tu es tout près de la frontière nord-coréenne?
Jusqu'à la fin décembre, c'était une source d'inquiétude, mais bon, depuis qu'on a annoncé l'unification de l'équipe, les membres de l'équipe de hockey féminin qui vont se joindre de la Corée du Nord à celle de la Corée du Sud, on sent que la tension s'est beaucoup apaisée là, au cours des dernières semaines.
Et est-ce que ça ressemble à un climat d'hiver?
Oui, tout à fait. Dans la route à Séoul, il y avait beaucoup de neige. Il y avait passablement de neige, un peu plus qu'à la normale, selon ce qu'on m'a dit. Dans les montagnes, c'est parfaitement enneigé. Ici, à Gangnam, c'est un peu plus doux, mais vous voyez, au moment où je vous parle, à 7h10 ce matin, on est à moins 5, moins 11 ressentis. On annonce des températures là, aussi autour du zéro au cours des prochains jours. Donc oui, c'est un climat hivernal.
OK. Alors donc, Sébastien, t'en es à tes 5e Jeux. Moi, je me rappelle de Jeux où je n'ai pas vu beaucoup de neige. C'était ceux de Nagano. Au centre-ville de Nagano, il n'y avait pas un flocon de neige. Il fallait aller vraiment en montagne, dans les Alpes japonaises, pour retrouver une situation. Alors que toi, tu dis, ça va vraiment être des Jeux d'hiver sur les différents sites.
Oui, en fait, les sites de montagne à Pyeongchang. Pyeongchang est une ville petite. Ça va rappeler peut-être les lameurs à certains. Il y a à peu près 10 000 habitants à Pyeongchang comme tel. Et la ville est à 750 mètres d'altitude, à peu près 2500 pieds. Donc, ça aide notamment pour avoir la neige. On y est allé hier pour aller chercher l'accréditation et l'uniforme. Et c'était vraiment, vraiment l'hiver dans cette ville-là. Mais comme je vous disais, lorsqu'on vient de la côte, le climat est peut-être un peu plus tempéré. Il n'y aura probablement pas de neige aux alentours des installations de hockey, patins de vitesse, patins artistiques et curling. À moins qu'on ait quelques averses là, d'ici l'ouverture des Jeux la semaine prochaine. Mais je te confirme qu'effectivement, ce ne seront pas des Jeux dans la pluie, comme c'était le cas à Cyprus, à Vancouver, entre autres.
Ah oui, à Vancouver, puis à Salt Lake, je me rappelle des conditions de ski nordique, de ski de fond. Ils avaient été obligés d'ajouter de la neige artificielle pour pouvoir faire la trace de la piste, quoi. Sébastien, parle-nous des installations. D'abord, ça ressemble à quoi, ta chambre?
Ma chambre, écoute, c'est un village qui a été bâti il y a 5 ou 6 ans. C'est une retraite de santé que l'on doit faire ici. Ce sont toutes des maisons bâties là, sur l'ancien style, le style colonial là, du 17e, 18e siècle, avec les installations heureusement modernes à l'intérieur. Et si ce n'était du fait que je n'ai pas de lit, je serais très, très confortable, Paul.
Comment ça, t'as pas de lit?
C'est un matelas de futon, là, une tranche de mousse qui a été mise par terre avec 4 ou 5 housses de couette par-dessus pour faire un semblant de matelas. Ça semblerait typique de la région, d'après ce qu'on m'a compris, mais c'est sûr que bon, plus vous montez dans la chaîne alimentaire des gens qui viennent au jeu, donc les commanditaires et tout ça, eux, bien sûr, ont les grands hôtels avec les installations de premier plan. Mais bon, la première nuit passée, j'ai réussi à dormir, alors c'est quand même bon signe.
Oui, bon, tu te rappelles de Sochi, là, à quelques jours de l'ouverture des Jeux, c'était les cabinets d'aisance, les cabinets de toilettes qui faisaient l'objet de tous les commentaires. Toi, pour l'instant, donc, tu t'en tiens à ça. Le matelas est à terre, il n'y a pas de sommier, il n'y a pas de structure de lit comme tel.
Exact. Ni chaise, ni bureau dans la chambre non plus. Donc, le seul endroit où je peux m'asseoir, c'est justement au cabinet d'aisance.
Et là, il n'y a pas de problème comparativement à Sochi.
Non, tout ça est très, très moderne, il n'y a aucun problème. Puis au niveau des installations, proprement dites, quand j'étais venu, moi, à la fin du mois de mars l'an dernier, tout était complété à 90 %. Honnêtement, je crois que Pyeongchang aurait pu accueillir les Jeux l'hiver dernier, tellement tout était prêt.
Ah ouais.
Les Jeux précédents à Sochi ou même à Turin, il y avait encore de la peinture qui se faisait ou de la construction dans les heures menant à la cérémonie d'ouverture, mais je peux vous confirmer que tous les sites sont prêts. D'ailleurs, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, est arrivé hier et fait sa dernière inspection finale et semblait confirmer que tout est vraiment prêt pour les Jeux.
C'est vraiment malheureux pour toi, Sébastien, que les joueurs de la Ligue nationale ne soient pas là cette année au tournoi olympique. Je parle pour toi, là, ce que tu vas vivre comme expérience, comme annonceur maison.
Absolument, mais ça peut peut-être permettre un tournoi d'hockey un peu plus serré. Je crois que la Russie part grande favorite avec ses nombreux joueurs professionnels ou les anciens de la LNH qui évoluent en KHL. Mais ça sera intéressant de voir le Canada. Le tournoi à la ronde ne devrait pas être très, très compliqué, mais encore là, ce n'est pas la formation canadienne à laquelle on est habitué. Et puis, je sais qu'on avait fait grand état, là, Gary Bettman parlait des heures de diffusion, mais comme tu le mentionnais d'ouverture, Paul, il y a 14 heures de différence. C'est donc dire que les matchs seront présentés pour le Canada, la plupart, soit à 22 heures, heure de l'Est, ou à 7 heures du matin dans la ronde préliminaire. Donc, ouais, c'est quand même accessible à un certain public au Canada.
Tu as raison. Est-ce que tu vas être annonceur maison également pour les matchs de hockey sur glace féminin?
Je suis à l'aréna principale, c'est donc dire le Gangnam Hockey Center, qui est le plus gros des deux édifices. Oui, j'aurai les deux matchs de demi-finale et le match de médaille d'or du côté du hockey féminin, depuis qu'il y a aussi les médailles de bronze et or masculin également.
Malheureusement, tu ne verras pas la formation de la Corée, qui ne sera ni de la Corée du Sud ni de la Corée du Nord, puisqu'on a intégré les joueuses en provenance du Nord et du Sud.
J'avais vu un match entre ces deux formations-là, moi ici, au mois de mars, lors du tournoi de rodage l'an dernier. La Corée du Sud l'avait emporté 3-0. Le trio principal de la Corée du Nord avait réussi quand même à provoquer certaines choses, mais au niveau des deuxième, troisième et quatrième unités d'attaque, ça ressemblait un peu à de la catégorie Pee-wee ou Bantam, je vous dirais, au niveau québécois.
Mais c'était quand même pour la bonne cause, c'était de réunir les deux Corées dans un esprit de paix.
Et c'est ça a fonctionné. Ils sont ensemble pour les Jeux olympiques. J'ai bien aussi hâte de voir l'équipe des athlètes olympiques représentant la Russie, parce qu'on ne peut pas dire l'équipe de la Fédération
c'est
de Russie
vrai.
Maintenant, de voir les couleurs et l'uniforme et tout ça, là, ce sera bien intéressant.
Penses-tu être capable de te de dénicher un billet pour les cérémonies d'ouverture?
Je vais te donner un secret, Paul. Nous, en tant que membres de l'équipe de travailleurs du comité, on a souvent accès à des billets, mais pour la répétition qui a lieu habituellement le mercredi ou le mardi précédent. Bien sûr, on doit avoir le vœu de confidentialité. On doit signer des documents comme quoi on ne peut pas diffuser aucune photo ni vidéo avant la présentation de la cérémonie. Mais il y a quand même eu un certain tabou. Il y a même l'agence Reuters qui a perdu son permis de couverture de la cérémonie d'ouverture parce que des photos d'une répétition précédente ont été publiées ici en Corée du Sud. Ça a fait scandale au cours des derniers jours.
Oui. Moi, quand j'étais à Lillehammer, l'ouverture, celui qui tenait la flamme, le dernier relayeur, partait du tremplin de ski de 90 mètres. Et il y a quelqu'un qui l'a photographié parce qu'il a pris une plonge en répétition.
Oui.
Quand est arrivée la cérémonie. Et là, tout le monde disait, on n'a pas le droit de dire que... Ben oui, il n'a pas le droit de dire. Le gars, pauvre gars, a planté tête première à la sortie du tremplin avec le flambeau et on se demandait s'il était encore vivant. Sébastien, je te souhaite de profiter de tes cinquièmes jeux et quand on va t'entendre, on va penser à toi en arrière-plan à l'aréna en français.
Bien gentil, Paul, merci beaucoup.
Au revoir. Sébastien Goulet, annonceur maison pour les matchs de hockey. J'ai oublié de lui dire, il est parti, j'ai oublié de lui dire, j'espère qu'il va être payé parce qu'à Rio, ils n'ont pas été payés et on avait fait quelques entrevues avec Sébastien Goulet. Le comité organisateur était cassé comme un clou. Il ne pouvait plus les payer. Puis finalement, je pense que ça s'est réglé, mais ça a pris beaucoup de temps.